Somebody wants to wait.
Monsieur, je me mets où?
C'est justement pour commencer un petit peu le travail qui se passe loin. Et les deux personnes qui doivent être les plus près possible du micro sont Eva, Robin et First of all, Eva. Et Sarah, j'allais oublier Sarah, pardon Sarah. Vous pouvez vous exercer?
Allô? Est-ce que tu nous entends?
Merci.
serait bien que quelqu'un contrôle la sortie du son sur le site. Vous dites super, Olivier, son écoute. Ok, vous pouvez y aller.
Donc bonjour à tous, nous sommes la classe première d'AGGSP, il est 11h34. Donc en premier lieu, Eva nous parlera de l'actualité, Sarah de revue, Wycliffe nous montrera sa musique et pourquoi il a choisi, Flavie nous montrera sa chronique, Wycliffe nous remontrera notre musique et Robin nous parlera des titres d'actualité.
La revue de presse de Sarah traitera du contexte de la crise au Chili, puis d'un témoignage d'un journaliste de l'époque. Ensuite, Wycliffe nous fera sa première musique qui est l'hymne national du Chili. Puis Flavie nous présentera la crise et la fin de la démocratie au Chili de 1970 à 1973. Et nous terminerons avec la deuxième musique de Wycliffe qui s'intitule « Mi General Augusto Pinochet ».
Pour notre radio, j'ai trouvé deux articles traitant de la crise et de la fin de la démocratie au Chili dans les années 70. Le premier s'intitule « Chili, le coup d'État ». Il a été écrit par la rédaction de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, le 5 septembre 2008. Cet article pose d'abord le contexte de l'époque, expliquant qu'en 1973, le Chili fait face à une crise économique, notamment à cause des grèves telles que celle des transporteurs qui paralysent le Chili depuis le 25 juillet 1973. De plus, les catégories socialisées, surtout les grands propriétaires, n'adhèrent pas à la politique du président Salvador Allende. Une pénurie est causée par la révolte des petits commerçants qui cachent les marchandises de première nécessité. On voit donc que des tensions au sein de la société sont palpables et les opposants de droite en profitent pour demander le départ du président. C'est donc le 11 septembre 1973 qu'un coup d'État est mis en place par Augusto Pinochet, général de l'armée de terre, les commandants des deux autres armées et le chef de la police chilienne. Ces derniers décident de bombarder le palais présidentiel de la Moneda et c'est à 14h environ que Salvador Allende est retrouvé mort au milieu des flammes et de la fumée. C'est donc Augusto Pinochet qui prend la tête du pouvoir sous les acclamations des partis de droite, mettant fin à la politique communiste pour instaurer une dictature militaire. Les États-Unis se réjouissent aussi de ce coup d'État car l'armée chilienne a su extirper le marxisme du Chili et ce en contexte de guerre froide. Cependant, on apprend que deux jours plus tard, la Junta, la structure politique dictatoriale, dissout le Congrès, suspend la Constitution et interdit le pluripartisme. Une terreur est instaurée, traduite par la poursuite, la déportation ou l'exécution des militants de l'unité populaire. Même un an après, bien que la Junta ait levé l'état de guerre, l'état d'exception permet d'arrêter et de déporter n'importe quel citoyen sur dénonciation ou pour de simples présomptions. Augusto Pinochet dira « On a beaucoup exagéré le nombre de victimes, au plus il y en a 200, mais selon la Commission Vérité et Réconciliation de 1991, la dictature aurait fait 2279 morts et disparus, ainsi que près de 27 255 personnes torturées. » Quant au second article, il s'agit d'un extrait d'un article paru dans le Figaro le 18 septembre 1973, rédigé par Georges Dupuy. L'auteur s'intéresse aux détails du coup d'État en le décrivant heure par heure. Cet article raconte comment un ultimatum a été lancé au président socialiste Salvador Allende, lui imposant de se rendre avant 11h du 11 septembre 1973, sinon le palais présidentiel de la Moneda serait assiégée et attaquée. L'auteur raconte que même les communications téléphoniques avec Paris avaient été coupées, ainsi que les lignes du réseau des téléscripteurs. Il est dit que c'est vers 10h que la fusillade commence, et à 11h, on apprend que tous les employés du siège du gouvernement ont été évacués, un silence pesant s'installe sur la ville, la radio diffuse pour la 10e fois le communiqué des forces armées, annonçant, entre deux musiques militaires, la fin de la dictature marxiste. Georges Dupuy explique que les bombardements commencent et un communiqué diffusé déclare que devant le refus du président de se rendre, l'armée de l'air et les forces terrestres passent à l'attaque pour éviter de verser le sang. Il est dit que c'est grâce à un coup de téléphone que la population sait maintenant que Salvador Allende est seul dans son bureau, entouré de quelques détectives civils et des jeunes gens chargés de sa garde personnelle, le GAP, groupe des amis personnels. On apprend également que le président a fait évacuer ses fidèles et ses deux filles, Béatrice et Isabelle, peu de temps avant les bombardements. À 14h environ, le président est retrouvé, on apprend sa mort, un suicide. À la fin de l'article, il est dit qu'à 22h, les chefs du Golpe, le coup d'État, apparaissent pour la première fois à la télévision. Ils sont assis à une table dressée devant le portrait du libérateur O'Higgins. Le général Augusto Pinochet est entouré par le général d'aviation Leite, l'amiral Merino et le jeune général des carabiniers Mendoza. À tour de rôle, ils fournissent une courte justification de leur action, le chaos économique, la violence, l'anarchie. Ils vont restaurer l'ordre, la dignité et la démocratie au Chili, d'après l'auteur Georges Dupuy. L'article est accompagné de plusieurs citations, dont une du président Salvador Allende qui dit « Je représente le peuple et la lutte de la classe ouvrière. J'assume le témoignage de cette lutte devant le monde et devant l'histoire. »
Donc, pour la première musique, on a donc l'hymne national du Chili. Donc, pour cette première musique de l'hymne du Chili, j'ai choisi cette musique parce que c'est donc un hymne qui est placé depuis après 1973, donc après cette politique de dictature, et qui recense les libertés chiliennes. Et donc, voilà.
Donc, maintenant, je passe la parole à Flavie qui va nous présenter sa chronique.
D'abord, je vais commencer par définir les mots clés du sujet. Donc, une démocratie est un système politique, une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple et où les citoyens respectent l'égalité et les libertés fondamentales. Lors de l'arrivée au pouvoir, le pays est en difficulté. En effet, depuis 1950, le Chili est confronté à de nombreuses difficultés, comme l'augmentation démographique et l'urbanisation. De plus, le pays dispose de nombreuses ressources, comme le cuivre, mais elles sont extraites par des entreprises états-uniennes. En 1960, les positions se radicalisent car le nouveau président, Eduardo Frei, veut nationaliser les ressources et améliorer les conditions de vie des classes populaires, alors que les États-Unis craignent que le pays ne bascule dans le communisme. La démocratie demeure inaboutie car les élections sont truquées. En 1969, un groupe d'officiers tente de prendre le pouvoir mais échoue. À cette même date, l'unité populaire est créée autour de six partis de gauche. El Salvador Allende, issu du Parti socialiste, en est le candidat. Nous allons maintenant écouter un extrait de son programme politique intitulé « Le socialisme de la liberté » datant de octobre 1970.
Et toi, nosotros vamos a hacer.
No, nous allons la faire, la démocratie.
Porque va a participar el pueblo.
Parce que le peuple va y participer.
No una minoría.
Et pas une minorité.
Ahora, cuando un pueblo.
Maintenant, quand un peuple.
Tiene conciencia de las metas.
A conscience des buts qu'il veut atteindre.
Ese pueblo es capaz de sacrificio.
Et que ce peuple est capable de sacrifice. Et moi, je suis sûr que le peuple chilien est mûr.
Porque ya ha entendido.
Parce qu'il a compris.
Y entenderá mañana.
Et il en comprendra mieux demain.
Tenemos todos que hacer sacrificios.
Que nous devons tous faire des sacrifices. Pourquoi? Pour semer pour l'avenir. Nos deux, trois premières années vont être très dures, mais sur la base d'un gouvernement droit et moral, et qui abandonne les privilèges pour une minorité. Et ça, c'est mon grand atout. L'intérêt, le patriotisme et la morale du peuple chilien.
C'est le 3 septembre 1970 que Allende est élu président au scrutin uninominal à un tour au Chili. Cependant, ces élections ont été très serrées car à 1% près, la droite passait. Les sénateurs désignèrent Allende président selon les règles de la Constitution. Allende met en place un programme socialiste, tout d'abord en nationalisant les ressources comme le cuivre, puis en augmentant les salaires et en nationalisant les charbonnages et la sidérurgie. Ensuite, Allende met en place la réforme agraire, plus compliquée à mettre en œuvre. En effet, dans le sud du pays, les grands propriétaires organisent de grandes manifestations avec le soutien de militants d'extrême droite. Ce programme socialiste connaît certaines difficultés. En effet, la hausse des salaires, comme on l'a évoqué plus tôt, provoque l'inflation et la hausse des prix. Le pays se retrouve en pénurie de plusieurs produits de consommation. De plus, les États-Unis lancèrent une campagne de boycott sur les produits chiliens, comme le cuivre. Enfin, la visite de Fidel Castro, homme révolutionnaire en 1971, et la grève des camionneurs en 1972 fragilisent la présidence d'Allende. Les États-Unis soutiennent également les grévistes. À la suite de cette période de troubles et de crises vient le coup d'État. C'est le 11 septembre 1973 que la démocratie est renversée, 2 mois après le Tanquetazo, première tentative d'un coup d'État. Ce coup d'État, planifié par les commandants en chef de 3 armées et le chef de la police et dirigé par le général d'armée Augusto Pinochet, fut violent. Il a eu lieu dans un contexte de crise et de forte polarisation politique, économique et sociale. Le palais présidentiel, la Moneda, est assiégé, mais Allende refuse d'abandonner ses fonctions. Le palais fut bombardé et Allende se suicida. Une junte militaire prend alors le pouvoir derrière Pinochet. Suite à son coup d'État, Pinochet met en place une dictature. En quelques jours, le pays se métamorphose brutalement. Les partis politiques sont interdits et le Congrès dissous. Un commando nommé la Caravane de la Mort opère dans le nord du pays et assassine 120 opposants en l'espace d'un mois. De plus, les États-Unis ont joué un rôle dans la fin de la démocratie. Ils n'ont pas agi directement, mais ils ont contribué à affaiblir le régime que Nixon, le président, considérait comme communiste. Par le boycott. La CIA a quant à elle soutenu financièrement la grève des camionneurs. Pour conclure, la crise du Chili de 1970 à 1973 est le résultat de la fin de la démocratie, renversée par un violent coup d'État d'Augusto Pinochet.
Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième chanson proposée par Wiki.
Es el nuevo padre de la patria. Está su nombre en la historia del cine, como lo ha sido don Bernardo Gis. Me recuerda con gran cariño y agradecemos con el corazón, con ese ejemplo al mundo entero, un gran orgullo de los chilenos, con ese ejemplo al mundo entero, un gran orgullo de los chilenos. Agradecemos con el corazón, usted es ejemplo al mundo entero, un gran orgullo de los chilenos, usted es ejemplo al mundo entero, un gran orgullo de los chilenos, viva por siempre mi general, Augusto
Donc pour cette seconde musique, j'ai choisi une musique qui est radicalement opposée à l'hymne national du Chili. Cette musique, c'est une musique qui a été écrite et chantée pour le général Augusto Pinochet. Et c'est une musique qui fait l'éloge de ce dictateur donc, et qui présente cette personne comme tout-puissante, donc comme une sorte de culte de la personnalité, mais cette fois-ci dans la musique. Et donc c'est un... Il est montré comme tout puissant, comme l'ont pu faire par exemple d'autres dictateurs. Et ce qui